Vous entrez dans les ateliers de la nuit. L'atelier du son se terminera par une histoire de son. Une histoire de bulles, d'espace à part, pourtant en pleine nature, à ciel ouvert. On n'en dira pas plus, c'est la coordinatrice du festival Longueur d'onde, Anne-Claire Lainé, qui se prêtera au jeu de l'histoire vraie de son, ce récit intime où le son joue le premier rôle. Longueur d'onde, c'est le festival brestois de la radio. Il tenait sa 12e édition le week-end dernier. Longueur d'onde sonde chaque année la radio et ses pouvoirs. La radio comme laboratoire, synonyme de nouvelles expériences. Thomas Baumgartner y était pour enregistrer l'atelier du son. Avant l'histoire vraie, donc, il y aura des images. Comment faire voir à la radio? Comment le son, la voix, peuvent projeter devant vos yeux un paysage? C'est ce qui va se dessiner sur les murs de l'atelier du son. Peinture, fresques et images mentales. Nous sommes donc à Brest avec Thomas Baumgartner. C'est un samedi après-midi au Petit Théâtre du Quartz, en plein festival Longueur d'onde. Je laisse Thomas vous faire l'image.
Bonsoir et bienvenue à vous dans l'atelier du son que nous enregistrons devant le public du festival Longueur d'onde à Brest. Ouais. 3000 personnes, mesdames, messieurs. Figurez-vous, un théâtre, le Petit Théâtre du Quartz, inspiration italienne, disposition en amphithéâtre, des couleurs noires et rouges. La salle est dans l'obscurité, ambiance assez intime, même s'il y a donc un bon 300 personnes dans la salle. Et sur scène, donc, nous sommes dans la lumière. Voilà donc pour l'image. Et pour le lieu, on va donc se poser la question de voir avec la radio, faire voir avec la radio et avec le son. Et pour les voix de ce soir, dans ce lieu du Petit Théâtre du Quartz, j'ai à mes côtés Jean Dève, bonsoir. Bonsoir. Longtemps producteur de l'émission Peinture Fraîche sur France Culture, Paul Bloas est là, bonsoir.
Bonsoir.
Peintre brestois, connu pour ses géants, c'est ce qu'on dit, les géants qu'on trouve à Brest et un peu partout dans le monde, des corps de plusieurs mètres de haut que vous semez régulièrement. Et à ma droite, il y a Pascal Rueff, bonsoir.
Bonsoir.
Ingénieur du son de Brest également, créateur d'installations sonores immersives, du son en trois dimensions. Bonsoir, merci d'être là. Pour ouvrir cette émission, il y a Ayeb, un morceau qui s'appelle Ayeb, signé Serge Tessogué et Khaled Al-Jaramani. Le groupe Interzone, fondé donc par ces deux musiciens, c'est un morceau de 2005. Et c'est un morceau que vous nous avez suggéré, Paul Bloas, qui fait un peu partie de la, est-ce qu'on peut dire, de la bande-son de votre atelier de peintre?
Ouais, en partie, ouais, parce qu'il y en a pas mal quand même. Puis c'est surtout, avec Serge, on tourne une performance peinture-guitare, puisque je réalise en direct deux grands personnages pendant une heure. Et donc Serge alimente tout ce travail de création par des riffs de guitare, etc. Il répond à mes coups de pinceau, je réponds à ses riffs. Et Ayeb est justement l'un des thèmes qu'il utilise au cours de de la performance pour me relancer souvent.
Cette improvisation à deux, musique, guitare, du côté de Serge Tessoguet, pinceau, de votre côté, qui vous fait faire d'ailleurs le tour du monde. Vous avez fait ça à Madagascar, à Pékin, je crois, le plus récemment. On va en parler évidemment dans cette émission où on évoque le lien entre le son, donc en partie la musique, et de l'autre côté, l'image. Voilà. Il y a devant nous une tête. Alors, il y a 300 visages, mais il y a une tête. Une tête que vous avez apportée, Pascal Rueff. Cette tête, c'est... Alors, ça intrigue, parce qu'il y a quelqu'un juste avant l'enregistrement qui nous a demandé, mais qu'est-ce que c'est ? Donc, on va répondre pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est, Pascal Rueff ?
C'est Georges.
C'est Georges.
Vous voulez dire bonjour à Georges, s'il vous plaît ? Merci.
Non, les gens sont polis, mais intrigués.
C'est une tête de prise de son binaurale. Il a les deux mêmes oreilles que nous, à peu près. Elles sont anatomiques. Et la forme respecte notre façon d'écouter. Et donc, ce qui est capté avec cet objet, qui est donc un système de prise de son, permet de produire, quand on l'écoute au casque, une immersion 3D. C'est-à-dire, ça reproduit ce qu'on a dans la réalité.
Mmh. Vous produisez avec votre agence, c'est ça ? L'agence du Verbe, vous produisez des... Il y a des productions sonores immersives, donc notamment avec la tête de Georges. Mm-hmm. Et si l'idée de vous inviter sur une question qui est entre le lien entre le son et l'image, c'est que ce son immersif, souvent vous l'appliquez à des images, mais les images qu'on voit en fait, c'est-à-dire la réalité.
Alors, il y a deux choses. Ou bien ce sont les productions qui sont amenées à être écoutées lors de déambulations. Ça peut être dans un quartier, ça peut être dans un jardin. Et à ce moment-là, effectivement, ce qui va être injecté par le casque dans l'esprit de l'auditeur va travailler avec la réalité physique de l'auditeur, avec sa vue, évidemment, mais avec son toucher aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai sous les pieds. Et il y a d'autres applications où l'auditeur est immobile. On a eu l'occasion d'en faire l'expérience avec Longueur d'onde il y a quelques années, sur un spectacle, immobile et dans le noir. Donc là, on n'a plus d'image extérieure. L'image, elle est produite par l'esprit de l'auditeur parce que ce type de son, ce matériel sonore auquel le cerveau est très habitué, est capable comme ça de libérer une imagerie mentale forte et intime.
Jean Dev, vous vous disiez, vous êtes occupé de peinture fraîche pendant plusieurs années à France Culture. La parole des peintres, la parole des artistes qui devenaient de la radio par votre entremise. Cette question du lien entre le son et l'image, j'imagine qu'elle a été quotidienne pour vous. Elle est quotidienne pour vous.
Mais ça se fait naturellement parce que généralement les hommes, les artistes, les femmes, etc. ont des voix assez spéciales. Elles ont un grain qui fait que ce grain qui parle... dans l'espace, donne tout de suite à voir ce dont il est question, qu'est-ce qui est décrit. Et d'autant que, en général, ça se passait en marchant devant l'œuvre. Et la façon de passer devant, c'était à chaque fois gagné. J'avais appris ça dans mon enfance parce que je marchais pas. J'avais des furoncles aux pieds. Et donc le fait de poser le sol, c'est une douleur terrible. Mon père me prenait, qui était grand 2 mètres, me prenait dans ses bras et m'entraînait dans les musées. Et le fait de voir en marchant, parce qu'il ne s'arrêtait pas, il voulait pas le savoir, lui, les chefs-d'œuvre, ça n'intéressait pas. Mais le fait de voir ça depuis 2 mètres de haut, en marchant, ça m'a donné l'idée que c'était pas mal d'être frustré. Que plus on était frustré et plus l'image, par exemple, voir la Joconde en 1/1000 de seconde, tout est raté, mais ça reste. Ça reste toute une vie. Et je me suis dit, tiens, ça c'est très bon ça. Et puis notre ami à tous, Jean-Luc Godard, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, il fait la traversée du Louvre en 8 minutes 30 secondes et on voit les chefs-d'œuvre défiler. À la course avec, je pense, c'est Pierre Brasseur.
Claude Brasseur,
ouais, pardon.
Absolument. C'est dans Le Petit Soldat, non ? Les Carabiniers. Bonaparte. Évidemment. Mais alors, ça veut dire que pour vous, le peintre, sa peinture, son style, ce qu'il met sur ses tableaux, il l'a déjà dans sa voix ?
Je ne sais pas si vous avez remarqué vous-même, mais les artistes, les peintres, les sculpteurs ont des voix assez exceptionnelles. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir une voix rongée par les acides. À l'époque...
Non, pas les mêmes acides, c'est pas ceux auxquels vous pensez. Les acides de
pourquoi
la...
pas ?
Oui, aussi, les deux.
À l'époque de Restani, à l'époque de Nikita Saint-Phal, les voix rongées et poumons rongés par la résine, tout ça fait que ça vous donne le leurre d'une profondeur de champ. Mm-hmm. Et dans cette profondeur, vous pouvez y mettre n'importe quoi comme description. Ça accroche l'auditeur.
Mais est-ce que vous passiez par cet exercice de la description face tableau, ou est-ce que vous pouviez vous en passer ?
Oui, mais attention. Où commence la description ? Tout de suite, vous ne dites pas « c'est une maison ». Vous dites « tiens, il y a un volet presque ouvert, il est vert, il cache une fenêtre, il n'y a pas beaucoup de vie là ». Là, c'est-à-dire, mais il y a un deuxième volet vert, et puis à côté de ce volet, il y a une porte qui ne s'ouvre jamais, etc. Vous créez le fantôme, sans le dire. Mais le fantôme vient, la maison hantée vient. Ce serait une description sensorielle qui est presque agie, articulée par les ondes, animée par les ondes.
Il faut avoir subi, enfin, on décrit mieux ce qui nous a frappé.
Échappé. Oui, ce qui échappe comme, revient comme une répétition, comme une fatalité, donc il faut y mettre des mots. Finalement, la Joconde, c'est bien de l'avoir vue une millième de seconde, mais ensuite on y retourne et on essaie de voir. Et on lit autour.
Autour, il y a l'espace.
Autour, il y a l'espace. Mais il y a aussi un cadre. Donc il faut jouer entre le cadrer bien et laisser le flou. Mais un flou actif. Pas un flou passif sans mots.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire du son ? Ça veut dire de la musique ? Ça veut dire une écriture ?
Une ambiance, des respirations. Un peintre, quelqu'un qui respire, qui a des narines, et ça souffle. La bouche s'ouvre. Et comme vous le savez, la bouche, c'est déjà tout l'univers.
Est-ce que vous pouvez nous parler, Jean Dev, de Tony Grand, qui est un des multiples et nombreux artistes que vous avez rencontrés ? Vous parliez de résine, justement, à l'instant. Il a travaillé avec les résines. On va l'entendre, mais juste nous le présenter.
Alors souvent, on dit par pléonasme, un poète est un homme de la transgression. Un peintre aime la transgression, fatalement. Mais la transgression, comment ? Alors Tony Grand, par exemple, s'entourait de branches et sciait avec une scie à ruban, sciait la branche. Et à partir de ces morceaux, de ces tronçons de branches, recréait son ordre à lui. Ce qui est une façon contre nature de travailler. Et Tony Grand n'a jamais cessé de vivre contre nature. Par exemple, il a rencontré un congre et il l'a pris dans son atelier et il l'a enduit de résine. C'est-à-dire qu'à travers la résine, vous pouviez observer ou regarder le travail de l'écaille. À l'endroit. Le travail de l'écaille, des reflets dans la résine, mais il badigeonnait de signes, j'appelle des christiques, de signes blancs, la résine qui entourait le congre ou l'anguille. Donc il a toujours fait un travail contre nature, contre lui-même aussi.
Et vous êtes avec lui dans Peinture Fraîche, une émission du 21 avril 1999, donc on vous écoute en compagnie de Tony Grand.
Alors, ce sont des poissons ?
Oui, en partie.
Sous la résine ?
Sous la résine. Dedans.
Il y a quand même l'étrangeté d'une couleur qui est prise par la résine. C'est-à-dire qu'à travers la résine, il y a l'écaille.
Rien n'est coloré.
Le brillant de l'écaille.
La couleur est comme dans le bois ou comme dans la pierre, à peu près la couleur résultant venant des couleurs propres des choses. Il y a des brillances ou il y a des couleurs, je ne les cherche pas, je les accepte. Elles seraient affreuses, peut-être ça m'embêterait, je les corrigerais. Là, elles sont comme ça, je les prends.
Non, les formes sont ainsi parce que je crois que c'est la spatialisation de l'élément de départ le plus intéressant. Partant comme ça, partant avec ce matériau, c'est la visibilité est la plus intéressante, répond à cette forme. Je n'en vois pas d'autres. Et ça donne des semblants de... Oui, de cage ou de grille, ou de structure à base d'angle droit, ou de triangle. Pour des raisons de spatialité, je crois. Plus que des raisons de géométrie ou d'ordre et de contrôle des choses, quoi. Mais c'est très long à faire, et aussi difficile, et aussi long, et aussi fatigant.
Là, je comprends pas très bien.
C'est très fatigant.
Pourquoi long,
très
pourquoi
long,
fatigant de pêcher les cons, là.
Non, parce qu'il y a des 20, 30, 40 couches de résine. Et ce n'est ni moulé, ni fait mécaniquement, c'est tricoté.
C'est quand même le choix d'un poisson.
Enfin, imaginons que ce soit un matériau. Est-ce que c'est comme du marbre? Mais ce n'est pas du marbre. Faut-il du marbre? Faut-il... Non, je crois que c'est un matériau, effectivement. Est-ce un bon matériau? Je ne sais pas. Je veux dire qu'il est... Il me paraît plutôt dégueulasse et c'est un mauvais matériau. Probablement, là, quelque chose m'excite davantage si c'est un matériau qui n'est pas noble, puisque j'ai parlé de marbre.
Tony Grand, artiste camarguais, fils d'éleveur de taureaux, qu'on entendait dans Peinture fraîche, votre émission Jean Dev, en 1999, dans une réalisation de Marie-Laure Ciboulet. Évidemment, une multitude d'artistes, les dix, sont passés à votre micro. Robert Rauschenberg, Daniel Buren, Francis Bacon et tant d'autres. Dans ce qu'on entend, dans cette description, dans ce face-à-face avec une pièce plastique de Tony Grand, évidemment, on n'a pas cette image objective qu'offrirait une photo. Donc, il y a une sorte d'incomplétude. Et en même temps, il y a une surcomplétude. C'est-à-dire qu'on a et l'objet et l'artiste.
Mais vous l'entendez, l'artiste n'est pas simple. Il est même extrêmement compliqué. Il est artiste, il signe quand même son congre, et il dit c'est dégueulasse, c'est du boulot, j'aime pas les congres, à la limite...
Mais qui aime les congres?
À la limite, il vous dit j'aime pas ça, et en contrepoint, il vous dit le marbre c'est génial. Donc, pour se faire un passage dans cette compréhension, dans ce qui est dit à l'envers, parce qu'il y a quand même du déni là-dedans, il y a de la dénégation. Et ça, c'est une position de Tony Grand que j'aime infiniment. Je vous présente ça, mais je ne l'ai pas fait. Je vous présente ça, mais ce n'est pas bien. Oui.
Ne le regardez pas, à la limite, c'est ça.
Ne regardez pas, et surtout n'achetez pas. Il y a une grande révolte qui va jusqu'à la famille, jusqu'au père éleveur. Il y a eu une grande exposition. Tony Grand est mort il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans. Et une grande exposition au Mamac de Genève sur 2 étages. Absolument une exposition exhaustive, magnifique. Il y a des branches dont je vous ai parlé, il y a des congres. Et puis alors, à un moment donné, il y a une pièce. Vous pensez reconnaître ce qui se trouve sous la résine, vous n'êtes pas sûr. Mais vous reconnaissez, c'est pas une vache, c'est pas un bœuf, c'est pas un taureau, c'est un veau. Le veau mort est enrésiné. Et je peux vous assurer que de voir le veau résiné, ça vous glace les sangs. Alors c'est une pièce qu'il a faite, sans doute en colère contre ou taureau, ou le patrimoine, ou le père, ou le frère, peu importe, mais qu'il a faite, qu'il a réalisée, qu'il a signée et qu'il n'a jamais montrée. Alors, ce sont des démarches, moi, que j'aime assez, que j'apprécie, parce que, effectivement, un artiste a des colères. Il les montre ou il les montre pas. Et là, il les montre pas, et c'est très riche d'enseignement.
Mais ce qu'on entend aussi, c'est que la radio, quand elle est saisie par vous, par exemple, elle permet de montrer des choses qui sont invisibles. Donc, ce veau invisible, vous pouviez en parler quand même au micro.
Comme il n'y avait pas de censure à l'époque, je ne sais pas s'il existe la censure aujourd'hui sur France Culture, mais on pouvait tout passer. C'est-à-dire que la transgression était permise et même souhaitée, souhaitable. Donc les soupirs, les colères, les jurons d'un artiste pris en flagrant délit 2 pouvaient être non seulement enregistrés, mais même être diffusés. Mmh. Donc on avait vraiment les réactions les plus épidermiques qui passaient à l'antenne.
Vous comprendrez, Jean-Dev, que le passage que vous venez de dire sur la censure sera évidemment coupé à la diffusion. Paul Bloas, quand vous entendez Jean-Dev parler des artistes, parler de la manière de parler, de faire parler les artistes, comment vous entendez cette parole-là?
Je trouve qu'il en parle vachement bien, plutôt. Mm-hmm. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Il laisse vraiment la voix, en plus, à l'artiste. Il laisse le temps de s'exprimer. Je trouve ça plutôt intéressant. Ouais.
Vous aimez parler de vos œuvres?
Je crois qu'on laisse beaucoup plus notre travail parler de... plutôt que qu'on parle de notre travail. Mmh. Enfin, à mon avis, comment le peintre ou l'artiste, il se cache derrière son travail. Je veux dire, il n'est pas là pour... Enfin, il a du mal à en parler, déjà, généralement, je trouve. Sa position fait que, il doit, à mon avis, se placer derrière l'œuvre. Mmh.
Est-ce qu'il faut avoir eu envie de peindre pour parler de peinture, Jean-Dev?
Ouais.
Ouais.
J'ai peint à la manière de Van Gogh, mais c'était pas très bon.
Bah, c'est-à-dire que Van Gogh était déjà passé par là. Mais,
enfin, imiter Van Gogh dans les années 50, c'était pas courant quand même.
Mais sérieusement, vous pensez que avoir saisi un pinceau, avoir tenté de structurer
non.
un
non, je pense que c'est pas obligatoire.
Sans être obligatoire, est-ce que ça vous a aidé, vous?
Non, pas vraiment. Non. Non, j'aimais ça, j'aimais la peinture, c'est formidable, mais bon, quand on n'est pas doué, on tire un trait, quoi. Mm-hmm. Mais c'est pas ça, en fait, le problème. Le problème, c'est un rejet de la littérature et des écrivains et le bonheur d'être dans un atelier. C'est-à-dire cette respiration, ce désordre, c'est... Les odeurs ou les parfums, et ce travail, j'aime infiniment voir un peintre travailler à 10 choses à la fois, plus le téléphone. Non, mais c'est ça, ce qu'un écrivain ne pourrait pas faire, il peut pas travailler à 10 choses à la fois. Un peintre peut le faire, il peut même programmer ses achats de matériaux, de pots de peinture, etc. Il peut à la fois travailler l'image et aussi déjà annoncer les matériaux vers lesquels il aimerait aller. Et souvent, les artistes ont une langue inouïe que ne peut pas avoir l'homme normal. Il a déjà un grain de voix, il a un vocabulaire, remarquez, la plupart des peintres ou des artistes, ils savent non seulement parler, mais vendre. Maintenant, peut-être grâce à Guy Debord, qui nous a parlé du monde du spectacle, mais déjà quelqu'un comme Dali, il ne parle pas pour parler, il parle pour venir chez vous en tant qu'artiste et homme de théâtre. Mmh. Il invente une pièce. Et je trouve que de plus en plus, les artistes... Il y a ceux qui restent repliés dans l'atelier, il n'y a rien à dire, mais il y a ceux aussi qui vont au-delà et du côté du spectacle. Et ça, c'est assez passionnant parce que ça complète un peu notre vision d'un artiste, ce qu'il peut faire, comment il peut dire.
Et comment il peut faire voir, donc, aussi.
Et comment il peut faire voir à sa façon, même en exagérant comme Dali, je reviens à lui. Thank you.
Vous écoutez l'Atelier du son, Thomas Baumgartner sur France Culture.
Pulses de Steve Reich, issu de Music for 18 Musicians, un titre encore une fois choisi par vous, proposé par vous, Paul Bloas. Musique minimaliste, marquante, dans l'œuvre de Steve Reich. Vous la diffusez dans votre atelier pendant que vous travaillez ?
Ouais, c'est le genre de musique que j'écoute pas mal. Mais j'écoute un peu de tout, j'écoute du classique. Là, ce temps-ci, j'écoutais énormément Steve Reich.
Mmh. Ça vous met dans quelles conditions ?
Ce sont des musiques d'ambiance, en fait. Parce que ce qui est intéressant dans le travail de Steve Reich, comme les classiques, ce sont des plages d'une heure. Donc on a le temps vraiment de s'imbiber de la chose et de travailler un peu, je ne vais pas dire à la façon d'un robot, mais... de façon continue, en tous les cas.
S'extraire de quelque chose aussi ?
Ouais, c'est-à-dire en fait, c'est le son qui rentre en vous. C'est un peu comme quand je travaillais avec Serge en performance.
Serge Tessoguet ?
Ouais. C'est une musique qui vous alimente et puis vous essayez de réagir sur des sons, des choses comme ça. C'est beaucoup plus dur en atelier.
Mais, qu'en extérieur, vous voulez dire ?
En extérieur, c'est plus facile.
Mmh.
Parce qu'on doit répondre vraiment à l'autre. C'est un dialogue, c'est une synergie qui s'installe. Donc il faut répondre à des coups de pinceau, il faut répondre à des mouvements de guitare. Et c'est le public qui est au contact et qui se rend compte de cette synergie, en fait.
Mmh, ça c'est... Oui, il y a un côté performance publique,
ouais,
hein, c'est ça.
Et c'est des choses qu'on ne peut pas reproduire en atelier. Même si on a, par exemple, quand je travaille sur les BO de Serge, parce que ça nous arrive assez souvent de faire des prises pendant qu'on joue. Je les repasse après en atelier, j'arrive pas du tout à produire le même type d'image. Quand je travaille avec Serge, je fais des images qui sont extrêmement brutes de décoffrage. Mmh. Je travaille en extérieur, c'est complètement différent de travailler en atelier. En atelier, la température n'est pas la même. Vous n'avez pas de vent, vous n'avez pas l'espace, vous n'avez pas le public, vous n'avez pas le temps. Le temps, on travaille en une heure, on doit réaliser. Enfin, je dis « on », parce que Serge, j'estime qu'il construit l'âme des personnages, et moi, j'en fais la coque. On doit réaliser tout ça en une heure. Et il faut que ça tienne, que ça ait un réel impact à la sortie. Donc j'arrive sur des choses assez brutes de décoffrage que j'arrive pas à réitérer en atelier, en fait.
Paul Bloas,
c'est assez frustrant, d'ailleurs.
Bah, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le dialogue. Il y a un vrai dialogue, c'est-à-dire que la musique, j'imagine, la guitare de Serge Tessoguet, ouais. Quand vous êtes, par exemple, à Madagascar, face à un mur que lui est derrière en train de jouer, il joue aussi en fonction de ce que vous êtes en train de faire en atelier, même si c'est cette même bande originale, ce même morceau,
ouais.
C'est tracé, c'est écrit, c'est sur des rails.
Voilà. C'est-à-dire on joue dans des espaces qui sont extrêmement différents. Par exemple, à Madagascar, on a dû jouer pour les crocodiles et les lémuriens parce qu'on jouait en pleine jungle, enfin en pleine brousse. Il y avait qu'eux à nous regarder quasiment, mais on jouait, deux jours après, on jouait en plein marché Brousse de Diego Suarez, où là vous aviez les 4L, les scooters, il y avait, les gamins qui passaient. Donc il y avait une pression sonore déjà qui était énorme, et donc Serge était obligé d'improviser par rapport à ça. Et moi en même temps, il m'entraînait. Et c'est vraiment un dialogue à deux qui est basé en même temps sur une amitié. Qui est assez forte puisque je le connais depuis 97 quand j'avais rencontré Noir Désir, etc., et que j'avais travaillé pour eux.
Vous aviez fait des peintures dans le projet de l'homme pressé, non, c'est ça ?
Ouais, puis ça avait commencé par un festival qu'ils avaient organisé qui s'appelait Un jour à Bordeaux, c'était sur la gare d'Orléans. C'est comme ça un peu qu'on s'est connus, et puis moi j'avais mes personnages qui dominaient un peu l'espace. Et donc le premier contact que j'ai eu avec Serge, je m'en rappellerai tout le temps, c'est un matin, il vient me voir, on était au catering, et puis il me dit « J'ai passé toute ma nuit dans la gare Saint-Jean, et ça t'aurait plu ». Et ça a commencé comme ça un peu notre histoire, et après, comme j'avais travaillé sur l'univers carcéral dans la prison de Brest, il est venu me voir pour que je lui fasse pas mal de dessins sur un boulot qu'il faisait par rapport aux écrits de Georges Diverneau qui s'appelait « La peau et les os ». Donc il sortait un album, il avait demandé de lui faire tous ses visuels. Par la suite, Noir Désir a réalisé comment la BO de mon film Mada. Et on s'est retrouvés avec Serge. On essayait de dialoguer parce que Serge est plutôt un muet, il parle pas beaucoup. Mm-hmm. Et donc on essayait de trouver une façon de se parler tous les deux. Et on se disait, ça serait bien un jour de trouver un terrain comme ça. Et j'ai eu l'idée. Et 3 jours après, en fait, le festival des arts de la rue d'Aurillac m'a demandé de réaliser une création. Et donc on est venus tous les deux à ce moment-là et puis on a mis ça en pratique.
Et vous avez donc créé Ligne de fond, ouais, voilà.
Qu'on a joué un peu partout depuis.
On écoute un extrait de ce qui est la bande-son finalement d'une des performances et des vidéos hein, qu'on peut trouver en ligne de vos performances à deux, Serge Tessoguet et Paul Bloas. Et on ne peut que conseiller d'aller voir parce que c'est assez spectaculaire à voir. Et là, c'est la bande-son de ce que vous avez fait à Madagascar, je crois que c'était en 2012. Et on entend non seulement la musique, mais évidemment des traits de pinceau. Faire naître l'image avec le son, c'est la question qu'on se pose dans l'atelier du son ce soir, une question qu'on aborde en public depuis enregistré à Brest au festival Longueur d'onde. Cette musique qu'on entend, celle de Serge Tessoguet, Paul Bloas, est-ce que vous dites qu'elle vous porte ?
Ah, complètement, ouais. En fait, ça m'est arrivé de travailler avec d'autres musiciens, mais on fait plus de l'animation. Comme je ne connais pas forcément ces musiciens-là, on fait plus de l'animation que de la peinture, que de la création. Avec Serge, il y a quand même à la base une relation d'amitié qui est assez forte. Donc c'est une façon de parler à l'autre. C'est-à-dire, tu me dis ça, moi je te dis ça. Et on se répond comme ça, et c'est un dialogue en permanence.
Est-ce que vous débriefez après, à ce moment-là?
On se briefe avant. Ouais. On se briefe avant.
Dans quel sens?
Et après, bon, ça nous est arrivé de faire des perfs qui nous déplaisaient complètement à l'un à l'autre. Pas énormément, parce qu'on doit jouer à peu près une quinzaine de fois par an. Donc je crois que je me rappelle, il y en avait une à Tananarive qui ne nous avait pas plu du tout. Serge venait juste d'arriver. Mais autrement, généralement, c'est assez porteur. Et si on continue à le faire, c'est parce que ça amène à l'autre. Et moi, je sais que ça amène énormément dans la brutalité de mon mouvement. Et Serge, en fait, bon, il a d'autres formations. Il a Interzone, il a Zone Libre, etc. Il travaille avec plein de gens. Il travaille avec des poètes, il travaille avec des danseurs, des choses comme ça. Bon, je suis seul peintre avec qui il bosse, mais ça lui amène de nouvelles idées. Et c'est ça le but de la chose. C'est de pouvoir prendre quelque chose, de pouvoir alimenter son travail, de pouvoir découvrir des choses. Puisque moi, je suis toujours relativement insatisfait de mon travail. Enfin, c'est vrai que quand vous voyez des peintres comme Goya, Giotto, etc., vous dites que vous êtes quand même bien à la traîne, quoi. Et comment Donc l'exigence du travail, et je retrouve la même exigence avec un musicien comme Serge, c'est quand même de pouvoir avancer, de pouvoir arriver à l'essentiel.
Et pourquoi pas se nourrir au contact des images qui naissent donc sous les notes de sa guitare. Paul Bloas, vous enregistrez aussi?
Ça m'arrive de faire des prises de son au H4, je veux dire, dans la nature, des
avec trucs un petit enregistreur
et de réécouter. Mmh. Ouais. Ou alors, ça m'arrive d'écouter des BO de films, des choses comme ça. Je veux dire, vous mettez un micro, un H4 devant la télé, et puis vous enregistrez tout un film et vous travaillez là-dessus. Enfin, je me rappelle avoir pas mal peint en écoutant comment la toute la bande son du film Un taxi pour Tobrouk, par exemple. Bon, je veux dire, les dialogues, des voix comme celle de Ventura, etc. C'était quand même quelque chose. Mais comment, pour en revenir au son. C'est vrai que comment quand je travaille avec Serge ou même sur des sons que j'enregistre, ça peut amener des idées. Enfin, disons que ça permet au cerveau de s'éparpiller, de s'étaler. Et le principal, je crois, l'une des choses, c'est de ne pas arrêter les choses, de les laisser passer. Quand vous peignez, en fait, moi, je crois que l'un des trucs, c'est d'empêcher un peu le spectateur de s'arrêter sur un point de la toile. Il faut que son œil circule en permanence. Et c'est un peu la même chose que le son, je trouve que c'est une vague, quoi. C'est-à-dire, on est sur une vague et on se balade. On est dans une atmosphère, toujours.
Pour la suite de cette émission, j'ai demandé à nos auditeurs, s'ils n'ont pas encore un casque ou des oreillettes sur la tête, sur les oreilles, d'en mettre. Parce que nous allons parler d'immersion sonore. Et pour que ça marche bien, il faut mettre un casque. Alors vous, dans la salle, vous n'avez pas de casque, mais vous pouvez mettre un casque puisque nous sommes le 6 février et que vous réécoutez l'émission à laquelle vous assistez. Donc, merci de mettre un casque pour écouter L'île du Thé, un extrait d'une pièce intitulée L'île du Thé, signée par l'Agence du Verbe. Et vous, Pascal Rueff, on écoute.
Eh bien, sur le terrain, l'île n'est pas plus délimitée, disons, qu'une flaque d'eau sur la mer. Flaque de terre sur l'empire terrestre. Les hommes n'y vont guère. Les villages sont vides et fondent peu à peu. On cherche une raison apparente, il n'y en a pas. L'immersion de l'archipel survint en quelques jours. On vit les îles descendre du ciel. Ou plutôt, l'armée déménagea les bêtes, les gens. On ne vit rien. Pourquoi l'archipel de T ne peut-il être cerné par la pensée toute simple? Il n'est pas plus visible qu'une flaque d'eau sur la mer. Imagine un peu. Tu marches à travers une prairie par une très belle après-midi de fin de printemps. L'air est tendre. Tu allumes l'appareil jaune et il sonne. Tu viens de marcher dans l'île.
...9350e jour de l'île. Elle n'est déjà pas plus soluble que les vieux continents. Mais son aura grandit chaque fois que quelque chose engendre. Rien n'est visible. Combien de fois faudra-t-il buter sur cette évidence?
Chaque fois.
Au moins une fois, chaque fois. Je ne connais pas d'endroit plus calme.
J'étais presque à l'aise dans cet à peu près. À pied, on ne peut pas aller plus loin. Il y a dehors un vrai silence. Et puisque j'entends le bruit de fond de mes oreilles, sans doute tout le silence possible.
Un extrait de L'île du thé, thé comme Tchernobyl, qui est un de vos sujets, Pascal Ruyev, je ne sais pas si on peut parler de sujet, en tout cas, inspiration pour plusieurs productions. L'île du thé a été, on pouvait l'écouter en intégrale à longueur d'onde ici à Brest il y a quelques années, une production en binaural, donc pour le redire, le binaural c'est une technologie qui, si on écoute au casque, rend les effets à la fois d'espace sonore, de proximité, d'éloignement, des différents plans et de mouvements absolument réalistes. Et donc si on écoute ou on réécoute cet extrait, on se rend compte des emplacements, des voix, de la force, des ambiances sonores que vous avez créées. Parler de Tchernobyl en son binaural, ça a une signification, j'imagine.
C'est une manière de transporter le public qui, a priori, n'ira pas là-bas, dans ces ambiances qui sont, pour moi, si particulières. Et comme on n'a pas grand-chose à ramener, finalement, à cause de la nature de la radioactivité, parce que ce sont des endroits qui sont désertés, qu'est-ce que je peux prélever? Alors, évidemment, de l'image, évidemment, je peux collecter la parole des gens qui vivent alentour.
Ce que vous faites.
Mm-hmm. Mais, ou du film. Ou des choses un peu plus ésotériques. Il nous est arrivé de planter des radiogrammes dentaires dans le sol en espérant que les rayons X allaient y dessiner des images. Voilà.
Des radiogrammes dentaires, c'est quoi? C'est des radios de dents?
Ouais, c'est des petits morceaux de pellicule radio que le dentiste utilise pour photographier la mâchoire. Ouais. Et donc c'est sensible aux rayons X et donc c'est sensible éventuellement à la radioactivité qui est contenue dans le sol.
Donc vous vouliez récupérer une image de provoquée par cette chose invisible qui est la radioactivité.
Voilà. Oui. Comment on peut transposer, comment on peut traduire cette chose invisible, insensible, en tout cas pour laquelle nous, on n'a pas de capteur. Parce que le problème dans tout ça, c'est... Alors évidemment, quand on dit avec du son binaural, on commence à approcher finalement les sensations qu'on peut avoir dans la réalité. Il faudrait, pour bien le dire, il faudrait le dire comme ça. Il ne s'agit pas de faire du marketing, mais... Dans la réalité, on est rarement dans des conditions aussi pauvres, c'est-à-dire où un seul sens est actif. Quoi. Ça, c'est fondamental. Donc, là, on met en œuvre une solution qui, sur le plan de l'écoute, est assez similaire à celle qu'on met en œuvre naturellement. Mais évidemment, c'est pas corrélé avec les sensations physiques, avec la vue, avec il n'y a pas de vent, etc. Donc, c'est déjà important, c'est déjà un début, on va dire, pour plonger, pour quand on parle d'immersion, c'est ça. Mm-hmm. Hein, l'idée, c'est d'arriver à vous tremper dans une situation dans laquelle vous ne tremperez pas, enfin, en tout cas, dans laquelle vous ne trompez pas à ce moment-là, et voilà, vous y déplacez. Donc l'île de thé, c'est ça, c'est une heure et demie d'une immersion à travers du son binaural pour des gens qui sont équipés de casques. C'est une écoute collective, on est en situation de spectacle.
Dans le noir ?
On est quasiment dans le noir. Ouais. Il y a une mise en place qui se fait avec un peu d'éclairage, très faible, autour d'un vague laboratoire un peu étrange. Là. Mais ensuite, on plonge, on entre dans le noir.
Parce que vous jouez avec notre cerveau dans ces cas-là.
Mmh. C'est ça. On laisse travailler. On va fournir des sensations. C'est-à-dire que là, on arrive à une prise de son qui est peut-être une prise de sensation avec ce genre de système.
Ce genre de système, c'est la tête de Georges qui est devant nous, c'est qui est ça. Un micro. Qui
voilà, un micro dans chaque tympan, à la place des tympans plutôt. Et ces micros voient le monde sonore déformé par l'incidence de la tête et des pavillons auditifs. C'est comme ça que ça marche, en fait.
Oui, c'est-à-dire que vous réussissez à répliquer l'effet masquant, comme on dit, qu'à la tête, par exemple, par rapport au son. C'est-à-dire que si on entend quelque chose dans notre dos, on l'entend pas de la même manière que si on est de profil.
C'est ça.
Avec une tête comme celle de Georges, et on le remercie d'être ici ce soir, vous réussissez, vous cherchez à répliquer cet effet-là.
Mmh, c'est ça.
Et donc à tromper notre cerveau.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut obtenir avec un machin comme ça une sensation de présence, par exemple, dans le dos. Ça tient à pas grand-chose, mais si on fait marcher un acteur silencieusement derrière le mannequin, on est capable, au casque, effectivement, tout à coup, d'avoir, de sentir cette présence. On peut arriver comme ça à une sensation de présence. Quoi. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ouais.
Alors dans d'autres formes de production que vous faites à travers votre agence du Verbe, c'est étonnant de voir pourquoi vous l'appelez l'agence du Verbe, votre structure de production. Que vient faire le Verbe précisément ?
Ah bah c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Mon travail, c'est d'écrire. Je suis venu au son pensant un jour en écrivant de la poésie que les gens n'en lisaient pas et qu'il valait mieux la faire entendre. Donc j'ai commencé à bricoler avec des micros. Et puis de fil en aiguille, je suis devenu ingénieur du son. Et puis ensuite, j'ai découvert que dans le son, il y avait aussi de l'espace. Enfin, ou qu'il fallait qu'il y en ait, en tout cas. Mais le Verbe, c'est la base. Et l'agence, c'est le côté, on manipule des outils qui sont sophistiqués et on fait des opérations qui sont quelquefois un peu étranges. Quoi. Voilà.
C'est l'agence.
C'est l'agence. Ça, c'est le côté l'agence. Mais le Verbe, non, c'est la poésie. Ça, c'est l'axe.
Et vous disiez tout à l'heure que donc certaines autres de vos productions avaient été destinées à se plaquer, en tout cas se mettre devant l'image qu'on voit, c'est-à-dire lors de déambulations, peut-être dans des musées, dans des jardins, vous amenez du son qui finalement finit par tordre, détourner un peu l'image qu'on a en face, puisqu'on est là pour parler de rapport entre son et image et comment le son peut faire naître l'image. En l'occurrence, il s'appuie sur elle et va légèrement la détourner.
J'ai le sentiment que l'esprit a besoin que la réalité soit solide. La réalité la compose à partir de nos sensations. Donc c'est un ensemble, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit sonore, qu'elle soit tactile. Et la première fois que j'ai été confronté à une prise de son binaural, c'était vraiment une confrontation parce qu'on m'en a parlé, je ne connaissais pas. J'ai découvert ça, je l'ai essayé. Et je me souviens très bien de ce moment-là. J'ai réécouté ça dans mon bureau après une opération de nuit. 3h du matin, j'étais devant la fenêtre, la rue éclairée, et j'ai très bien senti comment mon cerveau essayait de faire cohabiter une image qui n'avait rien à voir avec ce que je lui fournissais dans le casque comme son. Et ça faisait une espèce de hiatus, alors qu'il arrivait à coller, mais alors ça devenait une hallucination à ce moment-là. C'était très étrange. Et je pense que la chose à laquelle on peut comparer ce genre d'expérience, c'est, parce que tout le monde la connaît, celle-là, c'est celle du rêve. C'est-à-dire où finalement des choses nous paraissent plausibles, on peut avoir la sensation de les éprouver, et pourtant le stimulus, il n'y est pas. Quoi.
Tout ça est une histoire effectivement de sensations ou de sensibilité. Comment on peut profiter de ces hallucinations-là, donc vous organisez des... Comment on peut alors, se mettre un casque de l'agence du Verbe sur les oreilles ?
Soit en spectacle, donc là on en a un nouveau en préparation. Donc le public, tous les spectateurs sont équipés d'un casque et on mélange une bande son sophistiquée avec des captations qui sont réalisées en direct autour des mannequins. Donc juste pour donner un exemple, si je viens chuchoter à l'oreille de Georges, ben chacun va avoir le sentiment que je chuchote à son oreille. Et sinon, on organise des séances de ce qu'on appelle le salon binaural. Donc, ils sont des situations confortables d'écoute pour des pièces qui font une vingtaine de minutes et qui ont souvent été composées, oui, pour des situations particulières, des déambulations, voilà.
Et puis, il y a des endroits comme le Festival Longueur d'onde où on peut régulièrement être sensibilisé, écouté pour la première fois ou pas pour la première fois des productions en multicanal, donc ça c'est sans casque, ou en binaural avec un casque. Voilà. Merci beaucoup, Pascal Ruef, d'être venu nous parler de votre agence du Verbe, de ce que vous y faites. Le spectacle en préparation s'appelle Parade, c'est ça ?
Alors, Parade, c'est le prologue du spectacle qui s'appelle L'Examen Moyac.
Voilà. Dont l'argument est ?
Alors, L'Examen Moyac, en 30 secondes, c'est une situation, une émission qui est enregistrée en public et qui propose à un chômeur, on est dans une très légère anticipation, de gagner un travail. L'émission est sponsorisée à chaque fois par une boîte, une entreprise, ou en l'occurrence, cette fois-là, une ONG qui s'appelle Nouvelle Agence Coloniale et qui prétend racheter les accidents nucléaires pour y implanter des colonies et nous inventer, si possible, un avenir. Quoi. Donc là, ils offrent un job à un chômeur pour aller... ils ont besoin d'un reproducteur mâle pour aller faire des expériences préalables en Ukraine. Enfin, bon.
Un volontaire ? Donc ce sera à suivre. C'est pas vaguement critique, si ? Non, un tout petit peu. D'accord, très bien. Merci beaucoup Pascal Ruef, merci Jean-Dev, merci Paul Bloaz d'être venu sur la scène du Petit Théâtre du Quartz pour parler, évoquer quelques points sur cette question le son et l'image et comment ça se passe l'un avec l'autre. Alors régulièrement, à cette heure-ci, dans l'émission, on entend une histoire de son, une histoire vraie de son, et vient de s'installer à nos côtés Anne-Claire Lainé. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes, est-ce que c'est ça la coordinatrice du Festival Longueur d'onde ?
Oui,
il y a toute une équipe, il y a toute une équipe, mais vous, vous êtes la coordinatrice. Mmh. Voilà. Et je vous ai proposé de venir, alors, exceptionnellement, c'est voilà, dans la continuité de l'émission, d'habitude, c'est les choses qu'on va enregistrer à droite à gauche, des histoires qu'on va recueillir à droite à gauche, histoires où le son a un rôle central, des histoires intimes, personnelles. Et vous avez accepté de venir raconter une de vos histoires vraies de son. Et donc, bah, c'est à vous, il était une fois.
Il était une fois un mont, seul, imposant, énigmatique au milieu d'une étendue. À perte de vue, le sable, la mer montant et descendant à vive allure. Je n'ai jamais vu l'eau monter ainsi, en une course folle. Je ne me suis jamais promenée dans la baie. Pourtant, il paraît que le mont est encore plus beau depuis les alentours, avec un certain recul, presque plus saisissant de loin que de près. Ce n'est pas tant qu'il soit dénué de charme quand on s'y trouve, mais les boutiques et l'assaut des visiteurs lui ont fait perdre de son mystère. J'y suis allée un jour, un dimanche comme tant d'autres promeneurs. Les ruelles, la mer Poulard et ses fameuses omelettes et galettes aux œufs frais, les boutiques et les boules à neige qui mettent le monde sous cloche avec la neige. Et oui, la neige, histoire de rendre le point de vue inoubliable. Voilà les souvenirs qu'il m'en reste. De ce monde, j'ai décidé d'en faire le tour. Me baladant dans le coin quelques années plus tard avec mon ami, carte routière en main, nous avons bifurqué avant la grande route qui mène en direct. On voulait voir le monde d'un autre point de vue, bien différent de celui que l'on peut avoir à travers la vitre de la boule enneigée. L'aborder par la face est, depuis Avranches, sortie Pont-au-Beau, puis direction Le Courtille et route de Roche-Thorin. Et le voilà, le monde devant nous, splendide, tout pointu, étonnamment là, au milieu de tout, au milieu de nulle part, amas granitiques surmontés d'un clocher, pyramide au cœur d'une vaste plaine de mer, de terre, de sable. Subjugués, nous l'étions, attirés et captivés, continuant à rouler le long des prés salés. Entre la mer et la terre ferme, cette zone d'un vert généreux, parsemée de canaux et de petites têtes blanches, des moutons haussés prés salés. Le mont roule, on s'en approche toujours un peu plus. On s'arrête un temps, on descend de la camionnette et on s'avance pas à pas en direction des prés. On chevauche une clôture, on descend de quelques mètres en contrebas de la route au niveau de la mer. Nous y voilà. Des moutons et un réseau de canaux, étroites bandes qui quadrillent le territoire. On échange, on s'émerveille, on partage notre émoi visuel. La lumière blanche et basse de cette fin d'après-midi se réfléchit sur la surface de l'eau et argente les sinuosités de ces minuscules cours d'eau. On cherche son chemin dans ce dédale, on enjambe un canal, on cherche le suivant. Où se trouve le prochain guet ? Vas-y, essaie à droite, et moi je tente par la gauche. Et on s'éloigne ainsi l'un de l'autre, chacun son chemin. Les paroles se distendent, on se regarde de plus loin, jusqu'à parvenir à mettre l'ouïe profonde en éveil pour écouter le paysage. Et c'est là que ça se produit, enfin, une sensation acoustique jamais encore éprouvée. Les sons ne parviennent pas à mon oreille. De très loin, je peux, pourtant à peine perceptible, entendre quelques bruits venus d'ailleurs. La circulation, les habitations au loin. En me concentrant, je parviens à capter quelques sons résiduels, mais je me demande encore si ce n'est pas une émanation de mon cerveau. On parle parfois de persistance rétinienne. Ici, il s'agirait d'une persistance auditive. Les prés apparaissent dès lors comme une bulle acoustique, comme un espace intermédiaire entre terre et mer, sourd au bruit environnant. Autour, tout semble loin, comme mis à distance par cette sensation auditive. La route par laquelle nous sommes arrivés, le mont vers lequel nous nous dirigeons, la pointe du groin du sud qui nous fait face. L'atmosphère sonore est pourtant dense. Il ne s'agit pas d'un vide sonore, mais plutôt d'un plein. Je parviens à sentir l'épaisseur du silence. Mais comment le décrire ? Je cherche encore. Il y a comme un filtre entre les sons du dehors, les bruits du lointain et le paysage sonore des prés. Cela donne l'impression que nous sommes à la lisière d'un territoire, dans un entre-deux mondes. Je repense à l'acoustique des paysages enneigés. Le vent s'étue, tout est calme, extrêmement calme. Face à ces territoires s'étalant à perte de vue, la sensation acoustique est celle d'être dans une chambre, en intérieur. Au sol, une mousse dense et moelleuse. En tâtonnant la terre, la souplesse apporte des réponses à nos interrogations. Ce tapis herbeux absorbe les bruits environnants. La sensation est bien celle d'avoir atterri sur une autre planète. Souvenez-vous de la boule à neige. Avons-nous traversé la paroi ? Sommes-nous entrés sous la cloche ? De cette expérience, j'ai gardé le souvenir et quand cet été, j'ai vu le mont au loin depuis la mer, naviguant entre Honfleur et Cancale, j'ai retrouvé dans ma mémoire cette densité sonore comme un instantané d'une perception auditive inoubliable.
Merci Anne-Claire Lenné, votre histoire de son, vous donc coordinatrice du festival Longueur d'onde à Brest où nous enregistrons cette émission. Merci, merci à vous, public du Petit Théâtre du Quartz à Brest. L'atelier du son est terminé, vous pouvez le réécouter, le commenter, le podcaster sur franceculture.fr. L'émission est préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, réalisée par Véronique Lamandour. L'équipe technique ce soir, c'est Dominique Allard, chargé de production, Bernard Quentin et Bastien Varigaud à la prise de son, Tanguy Le Corneau à la scénarisation. Et merci à vous, dans le public du théâtre, du Petit Théâtre du Quartz. Merci beaucoup. Dans un instant, vous retrouvez Aurélie Charron. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture et à Brest et ailleurs. Et à vendredi prochain.
Merci Thomas, depuis le Théâtre du Quartz à Brest pour le festival Longueur d'onde. Belle suite de nuit à vous. Voilà ce que vous entendrez la semaine qui suit dans les ateliers de la nuit. Mardi soir, c'est la radio sur un plateau dans l'atelier fiction. Un texte enregistré en public à Théâtre Ouvert, à Paris, « Votre maman » de Jean-Claude Grimbert, avec Pierre Arditi, Michael Hirsch, Christine Murillo et Dominique Pinon. Une mère s'est assise et ne veut plus se lever, et ne reconnaît plus tout de sa vie et de ce qu'elle connaît. Mercredi et jeudi soir, une adaptation du livre « Les proies » de Thomas Cullinan, paru en 1966 aux États-Unis. Un atelier en deux parties pour rendre compte de l'atmosphère de brume et de chaos. En pleine guerre de sécession, un soldat nordiste, blessé dans les bois, se retrouve au milieu de 8 femmes dans l'État de Virginie. Thomas Cullinan propose une allégorie sur la situation de son pays. Le jeune Yankee, opportuniste, représente les États du Nord qui avance au mépris du Grand Sud et de ses plantations. Les proies, par Ludovic Chavarro, réalisé par Céline Terce. Enfin, vendredi soir, à l'occasion de la Journée internationale de la radio, Thomas Baumgartner imagine un atelier du son très spécial en collaboration avec un programmateur musical de FIP. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur. Nous serons ensemble de 23h jusqu'à minuit pour une balade nocturne au cimetière Montparnasse. Des vivants, déambulant au milieu des revenants, avec entre autres l'écrivain Marilyn Desbioles, auteur de « Ceux qui reviennent ». N'oubliez pas de podcaster les ateliers de la nuit, tout est sur le site internet de France Culture.